nous allons maintenant entreprendre, pendant quelques réunions, une autre partie du programme, et qui est intitulée « Apporter le témoignage de Jésus, avec ses conséquences, le réveil ». Apporter le témoignage de Jésus, j'ai rédigé le sujet ainsi, pour qu'il soit direct, qu'il nous interpelle. Le Seigneur nous demande une chose, c'est d'apporter le témoignage de Jésus. Voilà ce qu'il demande à l'Église, à tous les membres de l'Église. Apporter le témoignage de Jésus. Et si cela était fait avec la foi, eh bien alors nous n'aurions pas à nous soucier de l'accroissement de l'Église et elle s'effectuerait à coup sûr et elle s'effectuerait même d'une manière magnifique. On parle aujourd'hui, on cherche des procédés pour accroître l'Église, eh bien la seule manière, c'est que les membres, tous les membres de l'Église, apportent ce témoignage. Et c'est ce que nous allons étudier. Nous verrons d'abord différents textes. Prenons en premier la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 6. Je prends ce verset isolément. Vous connaissez le contexte, on pourrait peut-être lire à partir du verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ. » Ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage de Christ a été établi parmi cette Église, parmi vous. Ce texte ne rappelle pas explicitement comment le témoignage de Christ a été établi ou a été confirmé parmi vous, mais nous pouvons dire qu'il a été établi certainement par la prédication et surtout par l'enseignement de la parole de Dieu, par des fruits de l'esprit, par des miracles ou toutes opérations du Saint-Esprit. Mais surtout, il a été établi par ceux qui étaient animés d'une action intérieure du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait qu'il ne manque rien aux membres de cette Église. Nous savons que l'auteur de cette épître, l'apôtre Paul, dira un peu plus loin dans le chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voyez, pas autre chose que cela. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors, voyez que cette prédication qui avait pour viser Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous faisons ensemble le matin l'étude de la passion, en somme, de Jésus-Christ crucifié, et vous voyez comme cela est un important, excessivement important. Mais il y avait un état particulier en l'apôtre qui apportait cette prédication, et il se sentait, lui, dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, parce que vraiment, il ne demandait rien, ne voulait rien demander à lui-même, à la chair, et au contraire, s'offrir au Saint-Esprit pour que celui-ci l'anime et puisse par lui apporter une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà déjà un aperçu du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus qui exclut l'assurance propre, l'assurance fondée sur la chair. Il nous arrive souvent de parler de nos mérites et de dire « nous n'avons pas de mérite, nous n'avons pas de mérite ». C'est bien. Il faut bien que tu n'aies pas de mérite si tu veux que la justice qui est établie en toi soit vraiment celle de Christ. Mais il faudrait que tu n'aies pas davantage d'assurance établie sur toi, sur ta chair. C'est ça. C'est bien, n'est-ce pas, de dire « je ne veux pas avoir de mérite, je n'ai pas de mérite ». C'est bien, il faudrait dire aussi « je n'ai pas d'assurance sur moi et je suis humainement dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement parce que je me suis livré, je me livre au Saint-Esprit ». C'est ça, la véritable Pentecôte. C'est ça, elle est là. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, les deux premiers versets de l'Apocalypse, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Nous retrouvons cette expression, témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. L'apôtre Jean, nous le savons, a apporté la parole de Dieu en une prédication apostolique de l'Évangile. Il a attesté tout ce qu'il a vu, il nous le dit lui-même, il nous le redit lui-même dans la première épître de Jean, qu'il a vu, qu'il a touché, et ce qu'il a touché, c'est la vie qui a été manifestée en Jésus-Christ. C'est excessivement profond, cela. Le témoignage de Jésus est donc ici la transmission par puissance d'Esprit Saint, par puissance d'Esprit Saint. Nous, une fois pour toutes, nous affirmons que rien dans l'Église ne peut se faire en dehors de l'Esprit Saint ou sans l'Esprit Saint. Faire quelque chose sans l'Esprit Saint, c'est faire quelque chose sans Jésus, et c'est par conséquent se trouver devant cette parole, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, nous sommes bien, n'est-ce pas, établis sur cette réalité, sans le Saint-Esprit, rien ne se fait. Eh bien, le témoignage de Jésus, c'est donc la transmission par puissance d'Esprit de tout ce que Jean a recueilli au cours du ministère de Jésus-Christ et au cours de ses apparitions après résurrection. Nous sommes dans l'Apocalypse, nous allons rester au chapitre 1er et lire le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous voyons ici, n'est-ce pas, que l'œuvre de Jean a bien été de répandre le témoignage de Jésus ou le témoignage de Christ. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. » Se tint sur le sable de la mer, c'est là que Satan aime bien se tenir. C'est pourquoi il est bon que nous soyons à Pergillo plutôt que sur le sable de la mer. Et j'ai toujours regretté que des chrétiens aillent sur le sable de la mer, ils y rencontrent plutôt Satan et qu'ils ne rencontrent le Seigneur, n'est-ce pas? Bon, mais c'est pas ce qui nous occupe actuellement, c'est plutôt le verset 17. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, en somme, là, nous avons deux choses. Nous avons des gens, dont il est parlé là, qui vivent en disciples, ils gardent les commandements, ils les observent, ils vivent en disciples, première chose, et deuxième chose, ils ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire ils l'ont à la bouche, ils le répandent, ils l'ont sur leur personne, ils répandent autour d'eux le témoignage de Jésus. Voilà les chrétiens. Voilà, voyez, ça n'est pas difficile. Ceux qui gardent les commandements de Jésus, qui vivent en disciples par conséquent, et qui ont, j'aime bien cette expression, qui ont le témoignage de Jésus, parce qu'ils l'ont en eux. Alors, ça se voit sur eux, ça s'entend dans leurs paroles, ils ont le témoignage de Jésus. Voilà l'Église, voilà les membres de l'Église. Nous arrivons au chapitre 19 de l'Apocalypse. Tant que nous tenons ce livre, prenons tout ce qu'il nous offre pour le sujet que nous étudions. Chapitre 19 et verset 10. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » On n'a pas retiré de cette sublime petite phrase tout son suc spirituel, tout ce qu'elle contient de magnifique. Le témoignage de Jésus n'est réel que s'il est produit par le Saint-Esprit, nous l'avons dit, et par le Saint-Esprit, alors, par l'esprit de la prophétie. Car, mes amis, tout au long de la Bible, eh bien, nous avons là un souffle prophétique, et le Saint-Esprit, c'est lui qui envoie ce souffle prophétique, c'est lui qui l'apporte. Alors, le témoignage de Jésus, je le répète, n'est réel que s'il est produit par l'esprit de la prophétie. Nous allons tout de suite voir quand même deux textes de Jean, de l'évangile de Jean, pour bien asseoir ce que nous venons de dire, l'esprit de la prophétie, chapitre 14 de Jean et verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il rappellera, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà le souffle du Saint-Esprit sur ceux qui ne sont disponibles, ceux qui sont offerts à ce souffle, le souffle l'esprit de la prophétie. Toute la Bible est une prophétie. Et c'est un souffle qui l'anime, un souffle qui s'en dégage. Et le témoignage de Jésus, c'est cela, c'est l'esprit. Hein, le témoignage, c'est un esprit à l'œuvre, et c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit qui, celui qui a animé les prophètes, animé tous les écrivains sacrés, animé tous les serviteurs de Dieu, animé tous les hommes pieux, c'est ce souffle-là qui passe, qui se manifeste en ce qui s'appelle le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mes amis, il y a des choses comme ça qu'on laisse de côté, et ce sont les choses les plus précieuses. Il faudrait méditer jour et nuit peut-être là-dessus, jusqu'à ce que ce soit bien ancré dans notre cœur, et que vraiment notre témoignage, par action, par conduite et par parole, soit bien ce souffle prophétique. Nous ne pouvons pas dire « Jésus-Christ est Seigneur » autrement que par un souffle prophétique. Le témoignage de Jésus, voyez, est l'esprit de la prophétie. Tous ceux qui témoignent de Jésus-Christ, de sa personne, de son œuvre, qui rapportent ses paroles et qui annoncent son retour et son règne, tout cela, s'ils le font par l'esprit qui les anime, ont la vérité en eux. L'esprit les conduit dans la vérité. Ils ont la vérité en eux et en leur bouche. Et ils font œuvre de prophètes. De prophètes. Prophètes dans un sens large. N'est-ce pas ? Il y a bien le don de la prophétie. Mais c'est petit, ça. C'est étroit encore. Parce que ça se manifeste sporadiquement dans le cours de quelques réunions des cultes en général, mais dans tout le reste, alors qu'y a-t-il ? C'est le vide ? Pas du tout ! Tout le reste doit être le souffle prophétique, l'esprit de la prophétie, et tous ceux qui, comme je vous l'ai dit, parlent du Seigneur Jésus, doivent par l'Esprit faire œuvre de prophètes. Ce sont des prophètes de Christ. Et les témoins de Jésus sont des prophètes de Christ. Même si l'on dit des choses du passé, on agit comme prophète. Car prophète signifie celui qui parle pour Dieu. Ils doivent parler et vivre soutenus, animés par l'esprit de la prophétie, ils sont les continuateurs des prophètes d'autrefois. Avez-vous pensé à ça ? Les témoins de Jésus aujourd'hui sont les continuateurs des prophètes d'autrefois. Et pourquoi ? Eh bien, il y a un texte que tout le monde connaît et duquel il faut retirer cette vérité, c'est le début de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, et versets 1 et 2. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Alors maintenant, après avoir parlé par les prophètes, Dieu parle par le Fils. Et comment donc parle le Fils maintenant ? Le Fils, il a parlé pendant son ministère terrestre, mais il est monté au ciel, mais il est à la droite de Dieu, mais il est la tête de l'Église. Le chef de l'Église, la tête du corps, il parle par son corps. Et ce corps, c'est l'Église. Ce sont les membres de Christ, les membres de l'Église. Et c'est par eux, par leur témoignage, qu'ils parlent maintenant. Dieu parle par le Fils, c'est-à-dire maintenant, par l'Église. Il parle par Christ, et l'Église est désignée même sous le nom de Christ. Bien sûr, puisqu'elle est le corps dont il est la tête. Donc l'Église, la véritable Église, se nomme Christ, et c'est elle qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est par elle que maintenant Dieu parle. Bien sûr, il ne parle plus pour qu'on écrive, puisque la Bible a reçu un point final, qu'il ne faut rien y ajouter, bien entendu, mais il y a tant à dire de ce qui précisément est consigné dans le Saint-Livre. Eh bien, c'est l'Église qui le dit, c'est l'Église qui parle. Et quand elle parle, si elle est vraiment l'Église, elle a le témoignage de Jésus, c'est-à-dire que Dieu parle par le Fils, au moyen de l'Église. Ah, mes amis, c'est clair, c'est la vérité, ça. Seulement, cette vérité, généralement, on la laisse, on ne la met pas en évidence. Je vous ai déjà dit le grand tort que nous avons maintenant, qu'il y a dans l'Église, eh bien, c'est qu'on a laissé, malgré tout, s'insinuer un esprit humain de raisonnement, de logique humaine. Et cela, il faut le secouer, il faut secouer cette poussière-là, et revenir à la vérité. Les membres du corps de Christ sont des témoins de Jésus-Christ. Et Dieu parle par le Fils, il parle par ce témoignage-là. Donc le témoignage de Jésus, c'est Dieu qui parle. Et nous arrivons maintenant à Acte 1. Alors là, c'est le texte principal, c'est un texte essentiel, puisque c'est le texte qui nous instruit essentiellement de la venue du Saint-Esprit apportant la puissance. Acte 1, verset 8, je ne vais pas relire tout le contexte ici, on le connaît bien. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Les apôtres ne l'étaient donc pas. Vous serez mes témoins. Ils n'étaient pas les témoins de Jésus. Ils ne l'étaient pas. Il y a là un futur. En effet, ils avaient fui. Et Pierre avait même renié son maître. Alors, ils n'étaient pas, même au sens tout ordinaire, et on peut dire presque au sens social du terme, ils n'étaient pas des témoins de Jésus, ils ne sont pas venus témoigner à son procès. On cherchait des témoins, des faux témoins, ils auraient pu venir, eux, comme de vrais témoins, et on ne pouvait pas leur fermer la porte du Sanhédrin, on ne pouvait pas. Les dispositions juives en vigueur ne le permettaient pas. S'ils avaient voulu entrer, ils seraient entrés. Ils n'étaient même pas, à ce titre-là, les témoins du Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur Jésus est lui-même désigné comme un témoin. Vous savez que le Seigneur Jésus est appelé prophétiquement comme un témoin. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 4, « Voici, je l'ai établi. » Et il s'agit, bien entendu, de David. Et quand il s'agit de David, alors que David est mort depuis plusieurs siècles, il s'agit, bien entendu, de ce fils de David, attendu et que les Juifs connaissaient bien comme devant être leur Messie. Alors, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Dites-moi, est-ce que les nations accourent vers nous aujourd'hui? Hein? Et nous faisons toutes sortes d'efforts pour arriver, comme le Seigneur le disait, à faire quelques prosélytes à droite et à gauche, mais nous ne voyons pas que les nations vraiment accourent vers nous. Eh bien, elles devraient accourir. En temps de réveil, elles accourent. Et il y a un temps qui reviendra. Le prophète nous le dit, où les nations accourront, elles trouveront un juif, et plusieurs hommes se mettront derrière un juif, ils tiendront par le pan de son manteau pour aller à Jérusalem. Ah, chers amis, ça devrait se passer dans l'Église, ça devrait se voir. Et je l'ai vu dans un, évidemment, un cadre limité de réveil, mais je l'ai vu dans un temps de réveil, j'ai vu cela, et, chers amis, sans vouloir m'accorder la moindre chose, mais je dis ce qui est, il y avait des moments où je ne pouvais pas m'appartenir, et il y a des gens qui me tenait le pan de mon manteau, si je puis dire, c'est-à-dire qui était sur mes talons, et puis qui me disait « Oh, il faut que vous me disiez cela, j'ai besoin de savoir ». Des gens qui venaient anxieux, désireux de savoir quelque chose de l'Évangile. Il faudrait que cela se voie dans un temps de réveil. Et pour arriver à un temps de réveil, nous l'avons dit dans le titre de notre étude, que faut-il? Le témoignage de Jésus-Christ, le vrai témoignage de Jésus-Christ dont nous allons pousser l'étude. Le vrai témoignage de Jésus-Christ. Alors vous voyez que Jésus lui-même est désigné comme un témoin. Alors s'il est un témoin, le témoin du Père, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. C'est beaucoup de choses cela. Dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 3 et au verset 31, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre, celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Alors, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Jésus est un témoin oculaire. Il a vu Dieu, il a entendu de Dieu, il le répète d'ailleurs dans l'Évangile, il nous apporte authentiquement ce qu'on appelle un témoignage. Alors retenons bien cela, dans Jean 18, verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Le Seigneur Jésus est vraiment un témoin pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, ça ne se compose pas. La vérité même, ce n'est pas tellement quelque chose qu'on expose. C'est quelque chose dont on témoigne, dont tout doit témoigner dans la personne du témoin. Voilà ce que c'est que la vérité. Il faut qu'il marche lui-même dans la vérité. Il faut que la vérité soit sur ses pas. La vérité ne soit dans sa personne, sur sa personne, se lise sur sa personne. Donc la sainteté, bien sûr. Alors, le Seigneur Jésus est un témoin, l'Apocalypse elle-même aussi reprend ça, enfin, je n'insiste pas, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, il est appelé toujours encore là, le témoin fidèle. Jésus témoigne de ce qu'il a vu et entendu, il témoigne de Dieu, son Père, de son dessein, de ses paroles, il a vu Dieu, lui-même, n'est-ce pas le dit, vous voyez, tout cela est nécessaire dans cette construction admirable qu'est la révélation de la Bible, Jean 1,18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Il a entendu aussi, il a entendu, Jean 8, verset 28, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. » Oh, que c'est admirable ça, « que je ne fais rien de moi-même. » Et il y a des chrétiens qui font quelque chose d'eux-mêmes. Chers amis, comme il faut que nous nous débarrassions de ça. Et notre vouloir humain, là, nous faisons quelque chose de nous-mêmes. Et il y a même des entêtements. Il arrive qu'on rencontre dans l'Église des entêtements. Et le Seigneur Jésus ne faisait rien de lui-même. Rien, rien, rien. Il n'avait pas d'idées préconçues, il n'avait pas d'entêtement, il faisait rien de lui-même. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il a entendu le Père. Dans 12, 49, Jean 12, 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même. » Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et le Seigneur a parlé, vous voyez, en clair, pour bien nous montrer ces choses. Je n'ai rien fait de moi-même, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est vraiment un témoin. Et dans 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Toujours l'œuvre du témoin. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Vous serez mes témoins, nous dit donc le Seigneur Jésus, dit à l'Église, dans le début du livre des Actes, comme nous venons de le relire tout à l'heure. Vous serez mes témoins. La venue du Saint-Esprit sur vous va vous permettre d'entrer dans une activité dont le caractère est celui du témoignage. D'un témoignage identique à celui que j'ai rendu moi-même. Je parle pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? J'amplifie sa parole. Le Saint-Esprit va venir et va vous permettre d'entrer dans une activité dont le caractère sera celui du témoignage et la capacité du témoignage, d'être des témoins, proviendra de la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Ce qu'on appelle couramment le témoignage, vous savez, dans l'Église, c'est parler de son expérience, relater son expérience, le salut que l'on a reçu, et la guérison aussi que l'on a obtenue éventuellement, c'est cela qu'on appelle témoignage. Bon, certes, c'est un témoignage, mais quand il s'agit du témoignage de Jésus-Christ, c'est tout autre chose. il ne faudrait pas que nous pensions que nous sommes quittes à l'égard de notre vocation en rendant, comme on dit, témoignage de notre petite expérience de temps à autre. Non, c'est le témoignage de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, c'est cela que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur avait dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Cela dans sa prière sacerdotale. Et sur la croix, il avait dit, tout est accompli. Alors, tout ce qui incombait au Messie, venant sur la terre, à la parole de Dieu faite chair, tout ce qui lui incombait, était achevé, était accompli, c'est-à-dire parfaitement exécuté selon le dessein divin. L'œuvre, par conséquent, est totale, elle est efficace, elle est prête à porter tous ses fruits pendant des siècles. Tout est accompli. Voilà ce que, n'est-ce pas, le Seigneur a dit. J'ai achevé l'œuvre. Tout est accompli. Alors, s'il ne reste rien à faire, puisque tout est achevé, tout est accompli, Christ va retourner au Père. L'œuvre est terminée. Il va retourner au Père. Et il va faire place au Saint-Esprit, et qui, lui, va se servir des témoins de Jésus-Christ, les témoins dont il est parlé dans ce début des actes, vous serez mes témoins, le Saint-Esprit venant sur la terre, à la Pentecôte, va se servir des témoins de Jésus, c'est-à-dire de gens qui vivent déjà en disciples et qui vont avoir le témoignage de Jésus en plus. Alors il va se saisir de ces gens-là, il va en somme, c'est-à-dire se saisir des membres de l'Église, qu'il va doter, écoutez-moi bien, de sa plénitude, la plénitude du Saint-Esprit. Il va les doter de cela. Il y aura donc des témoins de Jésus-Christ. Mais que va-t-on attendre de ces témoins? Eh bien, on va attendre d'un témoin, quel qu'il soit, un témoin de Jésus-Christ, qu'il rapporte fidèlement ce qu'il a vu et entendu, comme nous avons lu que Jésus l'a fait lui-même. Il va falloir qu'il rapporte fidèlement, ce qu'il a vu et entendu. Et la réalité que rapporte un témoin de Jésus-Christ va rester indépendante de sa personne, indépendante des circonstances, indépendante de tout sur la terre. La réalité dont il va témoigner reste indépendante surtout de lui et de tout le reste. Pas d'influence du monde, bien sûr, là-dessus. Aucune influence et pas même une influence montant de la chair. Rapportée fidèlement et la puissance du Saint-Esprit en ce témoin va permettre cela, permettre cet accomplissement-là. Ainsi, tout ministère, comme celui des apôtres, comme celui de Paul, par exemple, consiste en un témoignage. Le témoignage de Dieu ou le témoignage de Christ. Et dans ce témoignage, il y aura la confession du nom de Jésus-Christ. La confession du nom de Jésus-Christ, c'est extrêmement important, cela. Et la confession du nom de Jésus-Christ, ça n'est jamais fini. Il faut toujours le confesser et savoir le confesser et être rendu capable par le Saint-Esprit de confesser le nom de Jésus-Christ. Et puis, il va falloir aussi témoigner de tout le conseil de sa parole, appuyé par Toute l'écriture, bien sûr, n'est-ce pas, c'est alors la confession de la vérité. Il y a la confession du nom de Jésus-Christ et la confession de la vérité. Et nous allons voir comment tout cela devient un véritable témoignage, c'est-à-dire la relation de ce qui a été vu et entendu. Ah, ne quittons pas de vue cela, vous serez mes témoins. Et on aurait là on se rappelle la parole du Seigneur, n'est-ce pas? La Bible qui nous dit que le Seigneur Jésus lui-même a vu et entendu. Vous serez mes témoins. Vous allez donc être ceux qui ont vu et entendu et qui rapportent fidèlement ce qu'ils ont vu et entendu. Le champ du témoignage, je vais montrer comment cela devient possible par la plénitude du Saint-Esprit. N'allons pas trop vite. Disons que le champ du témoignage embrasse toute l'œuvre de Dieu et cette œuvre reste attachée au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas la détacher de ce précieux nom. Toute l'œuvre est dans le nom. Si dans l'Évangile on retire Jésus-Christ, eh bien il n'y a plus rien du tout. Tout s'écroule, si l'on retirait la colonne maîtresse d'un édifice, tout s'écroule. Par conséquent, tout est rattaché au nom de Jésus-Christ. Le champ, évidemment, du témoignage est vaste, mais il a des limites qu'il ne faut pas dépasser, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans l'Église de Jésus-Christ, rien ne doit agir en dehors de la puissance du Saint-Esprit reçue en vue du témoignage de Jésus-Christ. Il n'y a rien à entreprendre pour le salut des âmes, rien à entreprendre que de rendre témoignage au nom et à l'œuvre de Jésus-Christ. Rien à entreprendre, tous les moyens imaginés pour attirer les âmes et pour leur procurer le salut en dehors du témoignage de Dieu et de Jésus-Christ sont hors des limites et de la mission assignée à l'Église. Et je rappelle une chose, que Adam le premier a péché parce qu'il est sorti des limites. Il est sorti des limites de Dieu. Il est allé toucher un fruit et manger un fruit dont Dieu lui avait dit « Tu n'en mangeras pas ». Il est sorti des limites. Et c'est là le péché. Et il y a là un péché. Et on ne peut pas faire œuvre de salut pour les autres en commettant ce péché. Par conséquent, tout ce qu'on va imaginer, tout ce qu'on va vouloir faire, ça va jouer à l'opposé de ce qu'on attend. Au lieu d'attirer les âmes, on va les éloigner et les repousser. Combien de fois j'ai constaté cela? On ne les attire pas, on les éloigne. Pourquoi? Parce qu'on fait quelque chose qui est hors des limites, hors du témoignage du nom de Jésus-Christ et de l'œuvre de Jésus-Christ par puissance du Saint-Esprit. Vous avez tout pleinement en lui, nous dit l'Épître aux Colossiens, vous avez tout pleinement. Vous allez aller chercher quelque chose à côté, en dehors de lui. Vous avez tout pleinement, vous avez les moyens, vous avez la puissance, vous avez la sagesse. Il a été fait pour vous sagesse et rédemption. Vous avez tout pleinement. Vous avez toutes les perfections. Vous avez tout en lui. Vous avez l'œuvre complète. Il a remis à ses serviteurs tous ses biens. Et c'est bien, c'est le tout accompli, c'est le tout est tout ce qui est achevé, tout ce qui est accompli, c'est l'œuvre de la rédemption dans toute sa puissance, dans toute sa valeur, dans toute sa vie, dans toute sa force. la plénitude de l'œuvre à l'égard de tous, il faut la trouver, bien sûr, dans cette plénitude du Saint-Esprit. L'œuvre du Christ suffit et suffira toujours. Elle n'a pas besoin d'œuvres annexes. Elle n'a pas besoin de dispositions rajoutées, de systèmes religieux réglementés, de structures, de recherches de moyens nouveaux. Elle se suffit à elle-même. Et si on ajoute quelque chose, Dieu sanctionne, et il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». L'œuvre est parfaite par celui qui l'a accomplie, parfaite en ses conséquences qui sont projetées sur les siècles de l'Église et sur l'éternité. Travailler pour ce qui survit jusqu'en vie éternelle, tout ce qui demeure, subsiste jusqu'en vie éternelle. Et c'est Christ qui a été marqué du sceau de Dieu pour cela. Par conséquent, n'est-ce pas, l'œuvre est parfaite par celui qui l'a accomplie, parfaite en ses conséquences, projetée sur l'éternité, elle est parfaite en sa puissance. Et l'Évangile, en effet, est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Est-ce que nous avons assez d'assurance à ce sujet-là? Nous ne les avons pas comprises, nous ne les avons pas reçues. Alors nous allons en quête, et en quête souvent du côté du monde. Vous n'auriez pas une petite technique de plus? Une technique du dernier moment? Ah, peut-être cela va aider à attirer des âmes à Christ. Quelle folie, mes amis! Quelle folie! D'abord, n'est-ce pas, on le voit bien, depuis le temps qu'il y a des gens qui s'évertuent, non seulement dans des conférences, dans des grandes conventions, à écrire, à noircir du papier, à prendre des dispositions, à instituer ceci, cela. Depuis qu'on fait cela, eh bien, l'œuvre régresse. Et, chers amis, des statistiques sérieuses à travers le monde montrent précisément que actuellement il y a vraiment de moins en moins de gens qui se convertissent vraiment à Jésus-Christ. Et il y en avait plutôt avant. Et actuellement, la démographie marche bien plus vite que ne marche l'action de l'Église attirant des âmes à Christ. Le nombre d'âmes attirées à Christ est tel qu'il a pour conséquence une régression du nombre de l'Église par rapport à la population totale de la terre. Pourquoi cela? Mais parce que l'on n'a plus confiance du tout dans la parole de Dieu, plus confiance dans les moyens de Dieu, plus et que le témoignage de Jésus-Christ, eh bien, on ne cherche plus à vraiment l'établir dans les membres de l'Église, parce que c'est dans les membres de l'Église qu'il faut établir ce témoignage. Et à amener des gens véritablement au baptême dans le Saint-Esprit, car il faut les amener là. Et mes amis, quand il y a le souffle du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient et descend, eh bien, ceux qui sont là reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Je voudrais aussi encore maintenant ajouter pour notre première étude, nous aurons d'autres études pour continuer ce sujet. Je voudrais encore ajouter ceci avant de m'arrêter. C'est que l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ n'est la propriété de personne. De personne, vous entendez? Il est parlé, en effet, quand on tourne les pages de l'Ancien Testament, il est parlé des œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. il est parlé de l'Église du Seigneur. Moi, je n'ai pas vu l'Église de Paul, l'Église de Pierre, l'Église d'un autre. L'Église du Seigneur. Il est parlé aussi de l'Église de Dieu, dans la première aux Corinthiens, dans la première épître à Timothée, il y a même cette expression, l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant. Le Seigneur, quant à lui, a dit, « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit, « Je bâtirai une Église pour chacun de vous ». Mon Église. Et puis, il nous est dit, dans les Éphésiens, chapitre 5, l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. Jésus aussi s'exprime de la manière suivante, « Je donne ma vie pour mes brebis, les miennes. Je connais mes brebis. » Et elles me connaissent, mes brebis entendent ma voix. Alors, l'Église, c'est pas la propriété de quelqu'un, d'un homme. Personne n'a d'Église. Personne ne peut dire « mon Église ». Mais c'est un blasphème, chers amis, un véritable blasphème. C'est s'approprier l'œuvre qui est à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Voyez que c'est grave. C'est l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes les brebis du Seigneur. Vous n'appartenez à personne, ici sur la terre, qu'au Seigneur. Bien sûr, Dieu a donné à l'Église des ministères. Mais ces ministères ne deviennent pas propriétaires. Dans toutes les paraboles du Seigneur Jésus, cela se voit bien, n'est-ce pas? Il y avait une vigne que... Le vigneron avait confié à des serviteurs, et ces serviteurs ont voulu se l'approprier. Alors ils ont tué les serviteurs que le vigneron leur envoyait. Alors un jour, le vigneron leur a envoyé son fils, ils l'ont tué aussi, parce qu'ils voulaient s'approprier l'Église. Ils voulaient s'approprier la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur, elle est au Seigneur. Alors ça, c'est excessivement important, mes amis, ça ne paraît peut-être pas, mais c'est important en ce qui concerne le témoignage de Jésus dont nous allons faire le développement. Après, je voudrais encore ajouter ceci, si ça ne nous appartient pas, si les brebis du Seigneur ne sont pas à nous, mais à Dieu, alors nous sommes associés à l'œuvre de Dieu. Et c'est bien ce que nous dit l'Écriture, vous êtes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Le champ est le champ de Dieu. Les ambassadeurs, de qui sont-ils ambassadeurs? De Christ. Les serviteurs, de qui sont-ils serviteurs, comme Paul par exemple? De Dieu et de Christ. Les économes, que sont tous ceux qui sont établis dans une fonction dans l'Église. Ils sont économes pour posséder. Non, ils sont économes devant rendre compte au maître à qui les biens appartiennent. Alors, ce n'est pas nous, mes amis, ce n'est pas nous, par conséquent, qui pouvons... prétendre être propriétaires et disposer des biens du Seigneur. Nous avons à les faire valoir, non pas à les dilapider, non pas à prendre des dispositions qui modifient ces biens. Dieu seul appelle une âme, c'est Dieu seul qui la remue, Dieu seul qui la convainc de péché, Dieu seul qui l'attire à Jésus-Christ, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous travaillons, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu utilise notre travail et notre témoignage, mais c'est son esprit qui fait cela. Quand nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus, il nous dira, et j'espère qu'il nous le dira à tous, « Tu as été fidèle en peu de choses. même si quelqu'un comparait et peut dire, mais Seigneur, j'ai vu se constituer autour de moi des églises, j'ai vu des âmes en nombre innombrable, en nombre très important, venir et se convertir à Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Tu as été utilisé à cause de ta fidélité, ainsi tu as été fidèle en peu de choses. Parce que l'œuvre, c'est ton Dieu qui l'a faite, c'est le Saint-Esprit qui l'a faite, l'œuvre. Dieu seul, donc, appelle l'âme, c'est lui qui la convainc de péché, qui l'attire à Jésus-Christ, qui met sur sa route un ou plusieurs témoins, c'est Dieu qui lave. L'âme qui l'a appelée, c'est bien Dieu qui la régénère, c'est bien Dieu qui la sanctifie, c'est bien Dieu qui la sauve, n'est-ce pas? Alors, nous sommes ouvriers avec Dieu, et notre rôle, qui est très grand, qui est magnifique, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Dieu seul forme l'humanité nouvelle, car il s'agit de cela, l'humanité nouvelle, en s'appuyant sur l'œuvre parfaite et totale et bien achevée de son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.